Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Guillaume Dard, président de Montpensier Finance et vice-président de l'AFG. Roland Gillet, professeur d'économie financière à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'Université Libre de Bruxelles, qui conseille également des autorités publiques et privées. Denis Père, le président de Nature and People First, qui a publié le contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. Mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. Il y a Fabrice qui m'écrit « Bonjour ». L'inconnu, ben en fait, c'est connu dans ma TPE. Zéro investissement, zéro embauche, voire réduction. Cost killing sur les coûts, m'écrit-il. Il y a cet auditeur qui s'appelle Le Can. Roland Gillet, toujours un plaisir. Calme, pondéré, lucide, courtois. Merci Roland. ça ne veut pas dire que vous êtes surexcité et pas courtois.
Hein, non, 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 non,
je rassure, ce n'était pas l'objectif.
On va être
vous vouliez réagir à ce que disait Denis Père sur l'éviscération de l'économie française.
Alors on va prendre un exemple. Une de ces start-up formidables qui vaut 1 milliard.
Hein, c'est le montant de la licorne.
La licorne.
Je rappelle que le milliard... la licorne, le milliard, elle n'est pas cotée, mais on estime qu'elle est valorisée 1 milliard.
L'ISF... Si, c'est fait sur la valorisation. Donc la valorisation, elle serait 1 milliard. Donc 3% d'ISF, ça fait 30 millions.
30 millions, d'accord.
Non, parce qu'on compte pas, enfin, 30 millions. Alors, comment il paye les 30 millions? Soit il avait 30 millions peut-être une fois. L'année d'après, il doit repayer 30 millions pour qu'il ait 30 millions, sachant qu'on va lui donner un impôt sur le revenu à 90%. Ça veut dire qu'il faut qu'il génère des revenus de 270 millions. C'est-à-dire qu'il faut qu'il vende 25% de son entreprise. Première année, il avait du cash. Deuxième année, il vend 25% de son entreprise. Troisième année, il en vend un peu moins parce qu'il est moins riche. Il en vend 20%. Cinquième année, il n'a plus la boîte. Et encore faut-il que quelqu'un lui achète. Donc, ça n'a... Vous l'aviez perçu, ça, Nicolas, ou pas?
J'avais perçu qu'effectivement, c'était la fin
c'était
la vente express des entreprises françaises.
Et personne ne les achètera. On prend un exemple maintenant dans une zone un peu beaucoup plus basse. Vous prenez les médecins. Les médecins, ils veulent gagner plus de 4 000 euros, hein, puisque le thème, c'est ça ne touche que les gens qui gagnent moins de 4 000. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui gagnent moins de 4 000. Mais les médecins, ça essaye de gagner plus de 4 000.
Généralement, c'est l'ambition de quelqu'un qui a fait 8 années d'études.
Très grand spécialiste, il a envie de gagner plus de 4 000 euros. Il serait content de gagner quelques centaines de milliers d'euros.
Oui.
Est-ce que vous croyez, alors qu'on se désole en disant il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de spécialistes, on ne peut pas rendre rendez-vous, est-ce que vous croyez que ça, ce n'est pas une population mobile? C'est-à-dire que... Et donc, comment... Enfin, et sinon, c'est un système... Alors évidemment, dans le manifeste communiste, il y a emprisonnement des exilés, et des émigrés et des rebelles. Donc ça ne marche que sous un système complètement collectiviste, clair. Ce système.
Je rappelais qu'effectivement, au moment du choc fiscal commencé par François Fillon, poursuivi par François Hollande, il y avait des professions libérales où ouvertement ils indiquaient qu'ils avaient arrêté de bosser le vendredi. Il y avait des avocats qui disaient « moi je bosse pas le vendredi parce que du réveil jusqu'au soir, tout ce que
je fais ». Mais bon, pour le français, il n'a pas tellement un avocat, mais le médecin, ça fait partie des demandes numéro un.
Alors qu'on a un désert médical effectivement partout en France, enfin c'est lamentable.
Oui, allez-y, Roland.
Mais ça s'est passé, vous me disiez, il y a 10 ans que vous êtes venu à Bruxelles.
Oui, c'est un peu plus.
Moi ce que j'ai vu, c'est beaucoup de Français venir en Belgique et je pense qu'il va en revenir encore une vague, mais ce qui est dingue, c'est que retenez quand même que la Belgique n'est pas un paradis fiscal. Avant, j'entendais des Français qui allaient en Suisse, je comprenais pourquoi ils y allaient. En Belgique, je comprends aussi pourquoi ils y vont, mais ils ne viennent pas dans un paradis fiscal, ils viennent juste dans un pays où les actions, j'entends en tous les cas le patrimoine, n'a pas un impôt sur les plus-values et où il n'y a pas d'ISF. Mais tout le reste en Belgique, on a un taux de prélèvement qui est même encore plus important que le vôtre.
Le taux d'impôt sur le revenu est supérieur.
Donc il ne faut pas dire que les Français viennent en Belgique dans un pays qui est sympathique sur le plan fiscal. Ils fuient un enfer qui est plus fort chez eux que chez nous. Et donc clairement, c'était déjà vrai avant. Et j'ai peur qu'avec ce qu'il y a dans le projet, on verra bien ce qui va émerger de ces mesures, on ait de nouveau une vague de gens qui sont en Belgique pour des raisons simplement de dire au moins je peux avoir un tout petit peu le respect des efforts que j'ai faits et que j'ai accumulé dans le temps et qui s'appelle mon capital.
Alors justement, à propos des différentes mesures qui...
Il y a une belle phrase de Montesquieu. C'est l'argent de l'État, c'est le bien que les citoyens lui ont donné pour pouvoir conserver l'assurance de ce qui leur reste.
Oui.
Donc on a évoqué l'ISF avec l'outil de travail, bon, on peut dire un mot de la boîte. La tranche d'hier à 80...
Je ne peux pas renoncer à dire à un moment donné, il faudra voir vraiment ce qui vous reste.
La tranche d'IR à 90%, aujourd'hui, Xavier Jaravel, qui vient souvent dans cette émission, déclare dans le Figaro, un taux marginal à 90% dépasse le taux Laffer. Le taux de la courbe de Laffer, la fameuse courbe de Laffer que j'ai évoquée sur BFM TV, qui a fait tant parler. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a un niveau de taxation au-delà duquel on a à peu près l'assurance, en fait, de voir les recettes baisser?
Dans les études économiques, il y a deux chiffres qui existent.
Guillaume Dard.
C'est 50% sur l'impôt sur le revenu, et un tiers sur l'impôt sur l'épargne. Au-delà, c'est considéré psychologiquement comme confiscatoire. Oui, et un tiers sur l'épargne, c'est d'ailleurs c'est la norme sur les taux auquel français. Est arrivé le prélèvement forfaitaire unique. On rappelle que dans d'autres pays qui ne sont pas des paradis fiscaux, Allemagne, Italie, Espagne, on est plutôt entre 22 et 27. Donc l'épargne, c'est 35. Donc l'idée de la mettre au taux marginal, et quand au taux sur l'impôt sur le revenu, c'est 50%, ce qui est accepté psychologiquement. On rappelle qu'en France, on est déjà à 65. Vous avez rappelé que François Fillon avait mis un impôt exceptionnel, une majoration exceptionnelle, entre guillemets, transitoire, en 2011, de 3 et de 4%. Donc, on est déjà à 65% de tranche marginale. On est déjà à un niveau qui est supérieur à ce que les gens veulent.
Et il y a eu des tas d'études empiriques qui ont été faites. La courbe de l'affaire existe depuis longtemps, et on sait qu'au-delà, effectivement, de 50%, on a déjà atteint le taux qui fait que c'est contre-productif. Et il y a un deuxième élément par rapport au taux de 3%. Tout à l'heure, on a parlé des actions, mais imaginez quelqu'un qui a un patrimoine diversifié normal. Il a aussi des obligations. Prenez des obligations françaises aujourd'hui. Elles ne rapportent pas 3% net. Donc, ça veut dire que le type, on lui prélève chaque année plus que ses revenus. Le 3% est supérieur au revenu qu'il obtient de ses obligations. Donc, en fait, il s'appauvrit sur le capital sans même parler de l'inflation.
C'est l'idée, Roland.
C'est l'idée. Ah oui, d'accord. Mais par contre, à un moment donné, personne ne peut décider quand même de faire autre chose.
Xavier Jaravel rappelle, et d'ailleurs, je le citais également la semaine dernière, que Gabriel Zucman lui-même écrit qu'un taux à 90% réduit les recettes fiscales.
Mais c'est inouï qu'on en parle.
Oui, mais comme vient de dire Denis, on repart à zéro.
On repart à zéro.
On va se demander, tiens, est-ce qu'un
spécialiste... On nourrit une haine sociale dans le pays en disant que le problème, alors, c'est ça.
Denis, oui, juste un exemple, effectivement, moi que j'ai vécu en Suède dans les années 90, on avait des commerciaux pour Business Objet, et la Suède à l'époque était en plein délire aussi, avec des taux marginaux très très élevés, et on n'arrivait plus à motiver les commerciaux. Les commerciaux, pour les motiver, il faut qu'il y ait une part variable significative. Or, toute la part variable partait effectivement en impôts, une grande partie, donc on n'arrivait pas à motiver les commerciaux. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Le seul truc qui marchait, on leur offrait des voyages, parce que pour une raison qu'on ignorait d'ailleurs, les voyages n'étaient pas considérés comme de la rémunération et du salaire. Donc on leur offre des voyages. Mais donc en France, elle sera, effectivement, j'en suis à peu près sûr. Mais donc on voit bien que c'est toute l'économie qui ralentit, c'est tout le pays qui se met, qui décide de plus bosser parce qu'il est plus motivé. C'est pas juste les médecins, ce qui est déjà dramatique. C'est l'ensemble de l'économie qui s'arrête à ce moment-là.
C'est là où le problème, c'est que l'expression premier de cordée, évidemment, est très galvaudée. Mais elle n'est pas fausse. Elle n'est pas fausse dans l'idée des premiers de cordée. Il y a quand même des gens qui tirent un système. C'est comme ça en sport. Si Mbappé est pas bon, on gagne pas les matchs. Voilà. Hein? Donc Mbappé, il est meilleur que d'autres joueurs. Bon. Dans l'économie, c'est pareil. Si vous dites à tous ceux qui tirent l'économie, vous allez être punis au nom de la justice sociale. Vous allez la cordée, elle ira pas très loin et elle redescendra probablement. Si elle tombe pas.
Au SMIC,
D'autant plus que si vous avez des gens qui, pour des raisons qui sont chez eux naturels, je vais dire, des problèmes, ne parlons pas des handicapés, mais de gens qui sont moins motivés. Si en plus les ceux qui sont les plus motivés, alors qu'il y a un grand nombre de gens qui ont besoin qu'on crée de la valeur pour avoir justement ce côté social dans l'économie. Si vous, en plus, vous freinez ceux qui sont les plus actifs, ceux qui sont les plus dans la volonté de se battre pour créer de la valeur, tout en sachant ce qu'on a rappelé du tissu économique français, de la manière dont les contribuables sont répartis en France, vous risquez de, évidemment, et on le dit très souvent, le moral est très important dans l'économie, de couper le moral encore très ambitieux pour la France, de ces gens qui créent
c'est
la valeur.
Ce que j'ai dit à Marine Tondelier la semaine dernière, elle me disait que c'est l'un des arguments, mais 92% des Français ne verront absolument pas de hausse d'impôts. Et là, je lui dis, je crains que les 8% qui restent soient des gens dont l'économie a besoin.
Il y a une très bonne. Vous avez été très bon, Nicolas.
Non, mais c'est pas non.
Mais je vais vous rappeler une petite phrase de Zinoviev. Vous vous souvenez qui était Zinoviev?
Non.
Quand même, il faut savoir des choses.
Mais non, mais allez-y, je vous dis franchement.
Lénine, Kamenev, Zinoviev. C'est la première troïka du Parti communiste. Qu'est-ce que dit Zinoviev? Il dit, il y a 100 millions de personnes en Union soviétique. Il y en a 90% qu'il faut qu'on convainque et 10% qu'il faut qu'on anéantisse. qu'est-ce que je peux vous dire? Et on reprend les mêmes propos.
Non, mais c'est très important ce qu'il dit, parce qu'il y a une faillite totale de l'éducation nationale sur ces sujets. C'est parfaitement anormal qu'on n'apprenne pas aux jeunes Français, qu'on ne fasse pas le bilan de l'expérience communiste sur 100 ans, qui a été un désastre économique dans tous les pays du monde, sous toutes les latitudes, à chaque fois, quelles que soient les tentatives, un désastre économique et bien sûr aussi un désastre humain avec 100 millions de morts. Et ça, ça n'est pas enseigné. Et c'est ça qu'on paye aujourd'hui. Le jeune Français qui sort de l'école, il n'a jamais entendu parler de tout ça. Moi, je l'ai vécu à titre personnel, même avec mes enfants. J'ai dû leur expliquer ça. On est allé en Russie une année, on visitait Saint-Pétersbourg, il y avait une guide qui leur expliquait qu'à l'époque du Parti communiste, c'était formidable. Ils commençaient à l'écouter avec des yeux. J'y attendais. Et puis j'ai dit à la guide, mais attendez, pourquoi les gens partaient à l'époque? Elle s'est mise à fondre en larmes. Et mes enfants m'ont dit, tu peux pas traiter la guide comme ça, etc. Mais la réalité, j'ai même dû l'expliquer à mes enfants, elle ne leur était pas enseignée. La faillite totale de l'éducation nationale sur ces sujets est responsable de cette situation.
Non, mais il est certain.
Et moi, quand je suis allé à Saint-Pétersbourg, chute du mur, les gens de Saint-Pétersbourg, ils disaient, est-ce que vous avez un moyen de nous permettre de passer de l'autre côté? C'était quand même des pays dont on ne pouvait pas sortir. Mais non, on ne le redit pas.
Guillaume, mais je sais, il est assez rare que des gens avant 1989 avaient l'intention de passer en Allemagne de l'Est. Ce n'est pas généralement le mouvement.
La jeunesse de France vote aujourd'hui pour des gens qui défendent ces idées-là, Nicolas.
En Hongrie, la hausse du salaire minimum de 10%, c'est pas vieux, c'était en décembre 2023, a fait que 10% des salariés payés au salaire minimum ont perdu leur emploi et que 80% de la hausse du coût du travail a été payée par les consommateurs. Je voudrais vous faire réagir, je commence par vous Guillaume Dard, Sandrine Rousseau qui s'est un peu emmêlée les pinceaux. Alors Sandrine Rousseau a commencé à dire dans une phrase un peu alambiquée que il y avait beaucoup d'épargne en France et que cette épargne allait payer la dette. Alors lui a dit, mais attendez, mais vous voulez quoi? Vous voulez prendre l'assurance-vie des gens et les spolier? Ah non, pas du tout. Mais je pense qu'il faudrait faire en sorte que cette assurance-vie finance la dette de la France. On ne sait plus trop comment elle se positionne. En tout cas, voilà. Comment vous avez compris ça,
Nicolas? Vous vous souvenez, sur ce plateau, il y a quelques années, avec une responsable socialiste, par ailleurs assez sympathique et très intelligente, on avait eu un débat sur les dépenses fiscales. Et je lui dis, mais les dépenses fiscales, ça veut dire l'argent qu'on laisse aux Français quand même. Et elle a dit, l'argent des Français et l'argent de l'État, c'est la même chose. Non, on ne dit pas le nom.
Je ne sais plus.
L'argent de l'État et l'argent des Français, c'est la même chose. Donc oui, c'est profondément dans la psyché. Et d'ailleurs, Sandrine Rousseau a raison. C'est techniquement possible.
Qu'est-ce qui est techniquement
possible? Techniquement possible, on peut dire qu'il y a emprunt forcé, c'est-à-dire que l'épargne des Français, et c'est ça le gros risque. C'est parce qu'évidemment, si on va dans toutes ces bêtises, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va dire, bon, alors là, le marché nous fait une très grosse prime de risque, donc il faut qu'on fasse un grand emprunt français, et donc emprunt forcé, et donc on bascule, vous basculez votre épargne dans des bons emprunts français. Et là aussi, c'est un problème aucune connaissance historique. C'est ce qui s'est passé pendant la guerre de 14-18, c'est ce qui s'est passé pendant la guerre de 39-45. Les Français ont perdu toute leur épargne avec l'inflation et la dérive budgétaire. Bien sûr que c'est bien sûr l'idée derrière. C'est si on fait le programme qui est envisagé, c'est ça la suite. Il n'y a pas de doute.
Bon. C'est ça qui est dangereux, c'est que politiquement, on peut aller jusqu'à des mesures pareilles, qui sont effectivement la spoliation des actifs des gens, et à un moment donné, on peut même faire croire que c'est bon, mais vous imaginez, si on ajoute les trois mesures que vous venez de dire, d'abord, on fait un emprunt comme ça. Sur cet emprunt, on considère même que les contrats d'assurance-vie sont du capital, donc on prend 3%, plus que la rentabilité d'intérêt de ces produits, et en plus de ça, vous avez à ce moment-là, évidemment, le monte qui va réagir au niveau financier, qui va mettre un taux d'intérêt plus grand. Donc en plus, ils vont faire une perte en capital sur des obligations dont le taux d'intérêt ne leur apporte rien et où ils sont en plus prélevés au niveau de leur patrimoine. Donc ça veut dire qu'il ne reste plus rien.
Oui, c'est ça.
Sur 10 ans, ça va très vite, hein, ce régime-là, c'est vite 30%. Hein.
Mais c'est arrivé dans l'histoire de
France. Mais oui,
mais je rappelle qu'on a voté une loi Sapin 2 il y a quelques années sous François Hollande, et comme toujours, il y a des articles qui n'ont pas trop été commentés. Il est un article dans cette loi Sapin 2 qui permet sur décision politique.
Non, mais je ne parlais pas spécifiquement de l'assurance. Je ne parlais pas de l'assurance. Hein. Mon propos était de dire, c'est pas l'assurance-vie qui est spécifiquement visée. C'est toute l'épargne française. C'est pas l'assurance-vie.
Je suis d'accord.
Non, mais il ne faut pas regarder ça parce que là, vous allez trop alarmer les gens. C'est le débat idéologique. Elle n'a pas dit, je ne pense pas qu'elle dise qu'elle veut prendre l'assurance vie. Le sujet, c'est de dire que l'épargne financière, c'est aussi votre compte en banque, hein, c'est pas plus votre assurance vie, votre compte en banque. Donc que ça... si vous sortez de votre assurance vie pour mettre le compte en banque, ça ne va pas vous protéger du tout. Hein. Donc oublions, c'est l'ensemble de l'épargne.
C'est le moment où jamais d'aller acheter du franc suisse.
Mais toutes ces mesures vont faire que des Denis, qui sont pour le moment en train de nous écouter ou pas, vont sans doute avoir envie de revenir à Bruxelles. Ou ailleurs, d'ailleurs.
Il fait de la pub pour Bruxelles.
Je ne pense pas. Alors, c'est pour l'Europe.
Il y a d'autres problèmes.
Il y a un auditeur qui m'écrit. C'est la révolte sur le plateau aujourd'hui. C'est prémonitoire.
On veut rester en France.
Mais vous avez bien compris que c'est pas ça que je souhaite. C'est pour ça que je dis le risque, c'est ça. On est d'accord.
J'ai mis une question de Niper ce matin parce que la question. Il y a une sorte d'espoir qui est en train de renaître chez les syndicats de patrons et syndicats de salariés de se dire que on va être devant un pays tellement ingouvernable que peut-être ça peut être un retour en grâce du dialogue social et peut-être que le paritarisme pourrait renaître de ses cendres. Vous croyez que c'est possible? Peut-être.
Enfin, l'obligation de faire des coalitions, enfin, on verra ce qui sort effectivement des discussions actuelles, mais s'il y avait une grande coalition qui aille des LR jusqu'à une partie du PS un peu plus raisonnable, un peu moins hostile à l'économie de marché, il y aura forcément un dialogue qui va s'instaurer aussi entre les syndicalistes et les patrons. Et je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui, il est même indispensable. Le problème qu'on évoquait tout à l'heure sur le pouvoir d'achat qui est réel, effectivement, dans les métropoles en particulier, suite à la hausse en particulier des prix de l'énergie
et parce que l'État... Et du logement aussi,
bien entendu. Ce problème est tout à fait réel et on sait bien problème, quand on l'analyse sérieusement, comme le faisait Guillaume tout à l'heure, c'est un problème de prélèvement, c'est un problème du coût de la sphère publique, c'est un problème de poids des charges dont on sait très bien qu'il est beaucoup plus élevé chez nous qu'ailleurs. Et donc, si ensemble les patronats et les syndicats se mettaient autour de la table et disaient, mais il faut qu'on essaye de faire un travail là-dessus, et peut-être que si on arrive ensemble à s'attaquer à la sphère publique enfin, et à ces strates administratives pléthoriques qui sont beaucoup plus importantes chez nous qu'ailleurs, tous les benchmarks internationaux du monde.
Que les syndicats soient compétents dans tous ces domaines.
Parce que les syndicats sont quand même, comme vous le savez, très très représentés dans la fonction publique, voire surreprésentés, donc ils ont un poids absolument considérable. Et la bonne nouvelle quelque part, c'est que les fonctionnaires eux-mêmes, les premières lignes, souffrent de cette situation de plus en plus. C'est-à-dire que ce sont les premiers à subir le poids de ces administrations, les injonctions, la lourdeur, que ce soit les infirmiers, les infirmières, les enseignants, tous subissent le poids de la bureaucratie. Donc il y a une vraie demande aujourd'hui, selon moi, de la plupart des employés au sein de la fonction publique pour que les choses s'allègent et qu'il y ait moins de charges administratives. Et donc ça peut être un début de discussion qui peut aboutir à une décision qui consiste à dire les premières économies qu'on fait, ils sont réorientés vers le salaire et vers l'augmentation du pouvoir d'achat des plus modestes. Donc ça, par exemple, c'est un chemin, je pense, sur lequel on pourrait travailler entre patronat et syndicat.
Et à un moment, il faudra aussi réduire la facture que financer.
Nicolas, vous avez repéré...
Mais commencez au moins par ça.
Je rappelle, c'est retraite, vieillesse...
Oui.
Vieillesse, santé, famille, accident du travail et maladie pro, et bientôt dépendance.
J'espère que vous avez lu le prix BFM Business de la librairie de l'Écho et de Montpensier Finance, que nous avons remis un livre formidable sur la simplification.
Donc, je ne l'ai pas lu.
Il n'est pas très long et il est très intéressant. Je vous résume en deux minutes. On pense qu'il y a 400 000 normes en France. Ce livre montre qu'il y a 2 millions de normes en France. Et le livre s'appelle « Simplification quand la France crève de trop de lois ». On l'a choisi, un peu l'année dernière, on avait choisi sur les agriculteurs. Celui-là, il est prémonitoire. Donc, ce que vient de dire Denis est clé. Si on ne simplifie pas, mais c'est la même chose qu'avant, lors de l'Ancien Régime, il faut une simplification. C'était ça l'intérêt du Code civil de Napoléon, c'est qu'il a simplifié. Si on ne simplifie pas, la complexité, la trilogie impôts, dépenses trop importantes et normes trop compliquées, va effectivement nous emmener dans une spirale de révolte successive.
Et cette simplification, elle peut se faire qu'avec l'accord des syndicats de la fonction publique. Donc si à un moment donné, il y a un dialogue qui redémarre effectivement entre le patronat et les syndicats sur cette thématique pour essayer de simplifier et en profiter pour essayer d'augmenter le pouvoir d'achat, bien c'est très vertueux potentiellement.
Vous voulez dire la simplification, c'est vrai en France, mais c'est vrai partout. Je l'entends partout.
Oui, l'herbe n'est pas forcément.
Mais non,
plus
mais c'est surtout
ailleurs.
Quand on en parle.
On a un record.
Vous avez mais peut-être un record,
on est
très bon aussi chez nous, rassurez-vous.
En Belgique,
là,
on a toujours de mauvaises habitudes.
Mais ce que je dis quand même, c'est ces trucs reviennent. Pour avoir été proche de chefs de gouvernement comme vous, mais quand ils étaient dans le concret, non pas dans le cabinet, mais dans les gens qui étaient à côté d'eux pour essayer de leur dire, attendez, il faudrait quand même simplifier ça. Une fois que vous touchez, c'est un peu comme une plotte. Vous touchez à un truc, il y a quelqu'un qui qui perd quelque chose, il y a un autre qui dit oui, mais c'est chez moi qu'on le prend. Et on est reparti pour un tour.
Mais Jean-Pierre Jouyat a fait un très bon livre là-dessus en disant je me rendais pas compte quand j'étais au pouvoir de la complexité du système et j'arrive comme simple citoyen, c'est très compliqué.
Oui, oui, tout à fait.
Tiens, mais changeons un peu de sujet pour terminer. J'aimerais que vous entendiez Denis Père sur l'histoire de la mine de lithium. Imerys, c'est un projet qui a été annoncé il y a maintenant plusieurs mois, s'apprête effectivement à exploiter du lithium dans l'Allier, en Auvergne. Et l'actualité est que ce projet a reçu le statut de projet national majeur. Le statut de projet national majeur a vu le jour fin 2023. Il permet justement des dérogations administratives à des projets qui sont liés à la transition verte ou la souveraineté nationale. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite que d'habitude. Il a déjà été activé récemment pour des recyclages de plastique ou encore des usines de panneaux solaires. Imerys dans l'Allier devrait créer 500 emplois directs et 1000 emplois indirects. Et il y a un débat sur les impacts environnementaux et socio-économiques sur cette mine qui sont en cours. Le débat est en cours et doit s'achever le 31 juillet. En voilà une bonne nouvelle ou haro?
Non, je pense que c'est une très bonne nouvelle, je pense que c'est indispensable. À partir du moment où on décide, alors on peut rediscuter du sujet, mais d'interdire le moteur thermique à partir de 2035 et de s'orienter, de faire le choix d'une technologie qui est le véhicule électrique à base de batterie lithium-ion, il faut du lithium. Or, ce qu'a découvert effectivement la Commission européenne et les principaux décideurs après coup, malheureusement, c'est que le lithium, il est entre les mains de trois pays. Aujourd'hui, vous avez trois pays dans le monde qui produisent 90% du lithium mondial et qui ont à peu près autant de réserves. C'est l'Australie, le Chili et la Chine. 180 000 tonnes, 160 000 tonnes produits par ces trois pays. C'est pire que l'OPEP. L'OPEP, c'était 13 pays qui ne contrôlent que 41% de la production mondiale. Voilà. Là, vous avez trois pays qui contrôlent 90% de la production mondiale. Vous allez sur le site de l'USGS, US Geological Service, qui est l'équivalent du BRGM américain, vous tapez USGS Lithium, vous trouvez l'information. C'est très facile, c'est très simple. Sauf que la Commission européenne ne l'a pas fait avant de décider d'arrêter le moteur thermique en 2035. Mais ça, c'est presque un autre débat. Donc, à partir du moment où vous décidez de faire ce choix, il faut du lithium. Or, aujourd'hui, le lithium, vous dépendez de ces pays-là. Vous avez même un OPEP du lithium qui est en cours de création en Amérique latine. Moi, je pense que je ferais la même chose à leur place, parce qu'on avait pas mal aussi en Argentine, en Bolivie, donc ils sont en train de se mettre d'accord pour créer un OPEP du lithium, un beau cartel qui va effectivement contrôler les prix pour les consommateurs comme nous. Donc effectivement, si on peut trouver du lithium chez nous, je pense que c'est essentiel. Il y en a apparemment pas mal dans l'Allier. L'objectif est très ambitieux, ils veulent produire 34 000 tonnes, j'ai vu 34 000 tonnes sur 180 000 tonnes au plan mondial, c'est considérable, on serait un des premiers producteurs, on serait au niveau de la Chine à peu près. Après, derrière, effectivement, ça n'a pas zéro impact. Il y a forcément de l'impact. Et ça, il faut l'assumer, il faut le comprendre. La transition énergétique ne peut pas se faire à zéro impact.
Combien d'années que ça se fasse?
Alors, il va falloir beaucoup de temps.
J'ai plus la date.
Il faut savoir que le problème principal du lithium aujourd'hui, effectivement, c'est le délai moyen d'ouverture des mines. Il faut 16 ans en moyenne pour ouvrir une mine de lithium dans le monde. Y compris dans des pays qui ont des cadres législatifs, environnementaux très peu contraignants. Donc 16 ans en moyenne. Donc je ne sais pas combien de temps il faudra en l'occurrence ici. Ils veulent effectivement prélever, j'ai vu, 600 000 mètres cubes d'eau par an dans la Sioule. Voilà. Est une rivière qui passe à proximité, c'est considérable. Ils veulent utiliser un certain nombre de produits très toxiques parce que forcément le process repose sur les produits toxiques. Donc je ne sais pas combien de temps il faudra, ça va être compliqué. Je pense que ça aurait été plus simple de ne pas décider de sortir totalement du moteur thermique en 2035. Il y a plein d'autres alternatives. En mettant de l'hydrogène, on peut injecter de l'hydrogène directement dans un moteur thermique, ça marche très bien. On peut injecter des biocarburants, on peut faire beaucoup de choses. Mais bon, donc voilà, le débat est posé.
Mais ce qui est bien, c'est que nous, on met toujours en Europe des jalons. On l'a fait notamment pour les moteurs maintenant thermiques, mais je vois déjà certains pays qui sont bien d'accord que ce sera plus loin que 2035. Souvenez-vous avec ce qu'on a fait pour le nucléaire et dans mon pays en premier, on avait mis des butoirs et on n'arrête pas de les postposer. Et sur le lithium, moi j'ai peur que ça fasse un peu comme les gaz de schiste, vous vous rappelez de cette expérience, qui elle aussi était très polluante au demeurant, mais c'est qu'à un moment donné, d'abord ça met 16 ans, on a eu suffisamment de débats avant même qu'on puisse aller plus loin, étant donné, et c'est vrai, il faut tenir compte des externalités négatives pour le coup, et on sait que dans ce domaine-là, on est très fort pour se torpiller nous-mêmes. Donc moi, j'ai quand même si l'initiative est très intéressante sur le plan de la stratégie, au niveau de participer à ce beau, non pas cartel, mais projet qui permettrait qu'on aille en Europe, effectivement, du lithium, que ce soit en France ou que ce soit dans des pays comme la France, ça va être très difficile à faire passer.
Vous voulez réagir? On dit un mot du Bitcoin pour terminer.
Oui.
Bitcoin, 59 132 dollars. Alors, il s'est un peu redressé, mais enfin, il a quand même connu une belle claque.
Bon, peut-être que Sandrine Rousseau fait de la pub pour le Bitcoin sans le vouloir. Je ne veux pas lui reprocher d'avoir une position. Si vous voulez, l'idée du Bitcoin, c'est très compliqué le Bitcoin. C'est un instrument, vous connaissez la monnaie, c'est une unité de compte, une réserve de valeur, un instrument d'échange.
Oui.
Bon. comme instrument d'échange, c'est pas terrible le Bitcoin, vous pouvez quand même pas acheter beaucoup votre baguette, on le sait. Comme unité de compte, c'est pas terrible parce que ça varie quand même beaucoup. Par contre, comme réserve de valeur, c'est une question que les investisseurs se posent. C'est pour ça qu'il y a eu la création des trackers, des ETF Bitcoin aux États-Unis.
Mais le marché se tasse un peu. Là.
Non, vous avez pas écouté. Vous avez écouté la suite. Je ne connais pas le sujet.
Allez-y.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une saisie. Parce que c'est dangereux le Bitcoin, hein. Je suis pas du tout en train de recommander d'investir dans le Bitcoin. Mais il y a des ETF qui ont été acceptés aux États-Unis. Et par ailleurs, il y a des fraudes, on le sait, sur le Bitcoin. Et il y avait une grande masse de Bitcoin qui avait été volée et qui ont été récupérés. Ça, c'est pas inintéressant. Et que les États-Unis et l'Allemagne sont en train de rendre à leurs détenteurs. Et donc, comme ça faisait, c'est assez dur de comprendre si c'était 10 milliards ou moins ou plus, mais que ça voulait dire que 10 milliards de bitcoins risquaient d'être vendus à très court terme. Donc, c'est un effet technique. Cet effet technique peut faire que le bitcoin baisse beaucoup, d'ailleurs, encore. Mais en soi-même, l'idée du Bitcoin, c'est que vous dites bon, bah ça, c'est quelque chose que l'État ne contrôle pas. Il contrôle mon compte en banque, il contrôle mon assurance vie, il contrôle à peu près tout ce que j'ai. D'ailleurs, comme le disait un de mes fils, ah oui, j'ai vu dans le Covid, on peut vous enfermer du jour au lendemain. Donc, et le Bitcoin, c'est un projet un peu libertarien. Je ne recommande pas d'acheter du Bitcoin, mais c'est ça le substrat.
Oui, et je pense aussi qu'il faut relativiser au niveau mondial. Le Bitcoin, ça fait à peu près 800-900 milliards de dollars, 800 milliards d'euros si on veut. Les Belges ont 400 milliards rien que sur le livret d'épargne. Donc une monnaie mondiale à 800 milliards, ça fait rire tout le monde.
Non, mais
allez. C'est pas une monnaie mondiale, c'est une réserve de valeur.
Non, je sais, mais une réserve de valeur très faible. Bah, quoi.
Vous avez un peu de Bitcoin, si on vous a tout enlevé, vous
non, j'aurais peut-être non, mais ça. Non, mais vous prenez sur le prélèvement, sur l'importance
mondiale. Je pense que le message de Guillaume résonne tout à fait de manière limpide pour pas mal d'oreilles. Oui, je peux vous. On racontait c'est Anthony Morel qui racontait ce matin qu'à Talence en Gironde, on a décidé qu'on acceptait les paiements en Bitcoin.
Bah oui.
Y compris
oui.
La baguette de pain.
Oui, bien entendu. Vous pouvez aussi sur des plateformes le faire, mais elles changent directement dès qu'elles ont les bitcoins contre des euros ou des dollars. Ces plateformes, parce qu'elles n'ont pas trop confiance en cette monnaie qui varie parfois de 30-40% sur un mois, quoi.
Merci à vous trois pour c'était quoi la révolte? Révolte du plateau. C'était Guillaume Dard, Roland Gillet, Denis Père. Rendez-vous demain 9h.